VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, un deuxième cas d'Ebola enregistré à Goma renforce la menace d'une propagation de l'épidémie.
En Mauritanie, le blogueur Mohamed Cher Ould Mahetir a recouvré sa liberté après plus de 5 ans de détention.
La police nigériane a ordonné l'interdiction totale du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite radical.
Ici aux États-Unis, première partie du deuxième débat des primaires démocrates hier à Détroit, alors que le président Donald Trump poursuit ses attaques contre un parlementaire démocrate noir et sa ville.
La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques quelques jours après les tests de 2 autres missiles de courte portée.
En Afghanistan, un bus saute sur une bombe, au moins 28 morts.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, 16 jours après un premier cas d'Ebola à Goma, un second patient a été enregistré hier dans cette grande ville de l'est du pays. Ce développement renforce la menace d'une propagation de l'épidémie déjà responsable de 1790 morts. Selon le docteur Haruna Abedi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu, le patient serait venu de Mangualou et était suivi à Bunia en Ituri. Le malade aurait fui les équipes de riposte pour se retrouver à Goma. Il est actuellement au centre de traitement Ebola de cette ville pour sa prise en charge.
RDC toujours, la plateforme politique, la Mouka, dénonce la persistance de la corruption. Elle s'est réunie hier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, sous la conduite de Moïse Katumbi, qui a passé le flambeau à Jean-Pierre Bemba, qui était représenté à cette rencontre. Le point avec Eddie Isango.
Moïse Katumbi a réuni ce qui reste encore des leaders de cette coalition transformée en plateforme politique depuis avril. Martin Fayulu, Adolphe Mouzito et Eve Bazaïba, représentantes de Jean-Pierre Bemba absent, ont dénoncé la persistance de la corruption dans le pays. Ils ont fait le constat de la détérioration des conditions de vie de la population, de l'augmentation des inégalités sociales et de l'insécurité. Les leaders de la plateforme ont par contre exprimé leur engagement à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle et la Commission électorale. La Mouka sera désormais dirigée pour 3 mois par Jean-Pierre Bemba, qui prend la place de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Deux de ses fondateurs, Antipas Mbusanya Mwisi et Freddy Matungulu, ont quitté la coalition pour se mettre au service du président Félix Tshisekedi.
En République centrafricaine, les auteurs présumés du massacre de Paoua, qui avait coûté la vie à 46 civils le 21 mai, seront traduits devant la Cour pénale spéciale, la CPS, créée pour juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, Éric Didier Tambo. Lundi, le parquet général de Bangui avait transmis le dossier à la CPS et déféré les 3 suspects auprès du procureur de la CPS. L'attaque du 21 mai a été imputée à des éléments du groupe armé 3R, retour, réclamation, réconciliation.
Le blogueur mauritanien Mohamed Cher Ould Mahetir a retrouvé la liberté après plus de 5 ans de détention. Il a rejoint le Sénégal voisin. Mais on ne sait pas s'il s'agit de sa destination finale. Bagassi Koura.
Reporters sans frontières a annoncé hier la remise en liberté le lundi à l'aube de Mohamed Cheikh Ould Kitière. Son avocate Fatimata Mbaye a confirmé que le blogueur a été relâché. La presse sénégalaise a affirmé qu'il est arrivé au pays de la Teranga sans préciser si c'était sa destination finale ou simplement un transit. Dans son article, le jeune blogueur critiquait l'utilisation de la religion musulmane pour justifier certaines discriminations contre la caste des forgerons. Son texte a été jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Détenu depuis janvier 2014, il a été condamné à mort pour apostasie. Cette peine a été ramenée en appel à 2 ans de prison en novembre 2017, mais la décision jugée trop clémente avait entraîné des manifestations. Ould Kitir était depuis maintenu au secret. En juin dernier, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, avait justifié cette situation par la sécurité personnelle du blogueur. Le nouveau président, Mohamed Ould Cheikh Gazouani, doit prêter serment demain jeudi à Nouakchott.
Au Nigeria, la police a ordonné hier l'interdiction totale du mouvement islamique du Nigeria, groupe chiite qualifié récemment d'organisation terroriste par le gouvernement, après une vague de manifestations réprimées dans le sang. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Toute personne s'engageant ou s'associant de quelque manière que ce soit dans les activités du mouvement islamique du Nigeria sera considérée comme terroriste, ennemi de l'État et comme un élément subversif qui devra comparaître devant la justice, a déclaré Mohamed Adamou, inspecteur général de la police. Toute forme de procession ou de manifestation organisée par le mouvement est désormais illégale et interdite, a-t-il indiqué dans un discours dont l'intégralité a été publiée sur la page Facebook de la police nationale. Nous demandons le soutien du public pour nous aider à identifier les lieux où se trouvent des membres de ce groupe chiite et ceux qui les soutiennent, a-t-il ajouté. La présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activités illégales du mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja pour exiger la libération du leader de ce mouvement, Ibrahim Zakzaki, incarcéré depuis 2015.
Au Soudan, des centaines de lycéens et étudiants ont manifesté hier dans les rues de Khartoum pour dénoncer la mort de 5 de leurs camarades dans le centre du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Nous gardons tout le temps le silence et ils nous tuent, s'exclame en colère une lycéenne de 16 ans en uniforme scolaire. Les 5 lycéens d'Al-Obeid ont été tués parce qu'ils demandaient des choses essentielles, de la nourriture, de l'eau, de l'électricité, a ajouté la jeune manifestante dans un quartier de Khartoum. Selon l'AFP, les jeunes ont vite été rejoints par d'autres lycéens, scandant ensemble « Le peuple veut se battre pour le droit des martyrs » ou encore « Tuer un étudiant, c'est tuer la nation ». Le mouvement de contestation a accusé les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le numéro 2 du conseil militaire, Mohamed Hamdan Daglo, alias Meiti, d'avoir ouvert le feu contre la foule. Les pourparlers prévus hier avec les généraux ont été suspendus. L'UNICEF a appelé les autorités à enquêter et à traduire en justice les auteurs de violences contre des enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren se sont retrouvés mardi soir à Détroit sous le feu de leurs rivaux modérés lors d'un débat entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, compte rendu de Jean-Roger Bion.
Les deux figures de l'aile gauche du parti défendent des réformes radicales pour battre le président Donald Trump en 2020, mais leurs rivaux ont exprimé leur peur de faire fuir les électeurs indépendants. Avec Bernie Sanders, Elizabeth Warren a défendu la création d'une couverture maladie universelle financée par des fonds publics sans aucun rôle pour les assurances privées, la fin des poursuites pénales pour les migrants entrés clandestinement aux États-Unis ou une couverture médicale pour les sans-papiers. Pourquoi être aussi extrême, s'est insurgé l'ancien parlementaire modéré John Delaney, tandis que le gouverneur du Montana, Steve Bullock, les a même accusés de jouer dans la main de Donald Trump. Pete Buttigieg, maire de South Bend dans l'Indiana, qui à 37 ans a réussi à se hisser à la 5e place dans les sondages avec près de 6% des soutiens démocrates, a tenté de rester au-dessus de la mêlée. Les projecteurs se tourneront ce mercredi vers Joe Biden, 76 ans, et la sénatrice noire Kamala Harris, en 4e position dans les sondages, avec 10,5%, dont la passe d'armes avait marqué le mois dernier le premier débat de la primaire démocrate.
États-Unis toujours, un discours du président Trump a été perturbé hier en Virginie et boycotté par des élus noirs de l'État sur fond d'accusations de racisme à son encontre, accusations qu'il rejette. Monsieur Trump, qui a continué ses attaques contre un élu noir et sa ville, s'exprimait à l'occasion du 400e anniversaire de l'Assemblée de Jamestown, lieu de la première colonie britannique permanente sur le continent américain.
Un élu démocrate du Congrès de Virginie, Ibrahim Samira, a brièvement interrompu son discours en brandissant plusieurs affiches « Expulse la haine, réunis ma famille, retourne à ta corruption ». Hué par une partie de l'assistance, M. Samira a été rapidement et calmement évacué par la sécurité. Le Parti républicain de Virginie a par la suite traité ce dentiste palestinien-américain d'antisémite.
La Corée du Nord a lancé ce mercredi deux missiles balistiques, a affirmé l'armée sud-coréenne, quelques jours après les tirs de deux autres missiles de courte portée pour protester contre des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington.
En Afghanistan, au moins 28 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, sont mortes et une dizaine d'autres blessées ce matin dans l'ouest du pays lorsque leur autobus a sauté sur une bombe placée en bord de route par les talibans, ont indiqué les autorités. Selon elles, la bombe était destinée à frapper les forces de sécurité. Les talibans n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Ces décès surviennent au lendemain de la publication d'un rapport des Nations Unies regrettant que les civils continuent de mourir et d'être blessés à un rythme inacceptable, en dépit des discussions visant à mettre fin à des décennies de guerre. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Pour lutter contre la surpêche et reconstituer les stocks, le Ghana va interdire les chalutiers le long de ses côtes en août et septembre, après avoir interdit la pêche artisanale en mai et juin. Les responsabilités de la surpêche sont partagées entre les bateaux-usines, souvent opérés par des Chinois, et les pratiques des dizaines de milliers de petits pêcheurs. Ils utilisent des produits chimiques ou tuent les poissons à la dynamite, ce qui coûte environ 50 millions de dollars par an à l'économie du Ghana. La Banque centrale nigériane accorde une licence à une filiale de MTN lui permettant de fournir des services financiers. L'année dernière, le Nigeria avait annoncé qu'il autoriserait les entreprises de télécommunications à fournir des services bancaires dans le but de donner à des millions de Nigérians sans compte bancaire accès aux services de transfert d'argent mobile. Pour terminer, le chômage a atteint 29% en Afrique du Sud au second trimestre contre 27,6% au premier trimestre. Pour l'Institut de la statistique, cela représente une augmentation de 1,4%, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis 2008. Environ 49 000 emplois ont été perdus au premier trimestre, particulièrement dans les mines, les transports, le bâtiment et la banque.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les groupes de l'Afro-Basket féminin Sénégal 2019.
Oui, le tirage au sort a eu lieu hier dans la capitale sénégalaise. Le Sénégal, finaliste de la dernière édition et pays hôte, est logé dans le groupe A. Il partage cette poule avec la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le Nigeria, vainqueur de l'Afro-Basket 2017, est dans le groupe B avec la Tunisie et le Cameroun. Le groupe C est composé de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Mali. Dans le groupe D, on retrouve le Kenya, le Cap-Vert et le Mozambique. La 24e édition de l'Afro-Basket féminin va se dérouler du 10 au 18 août prochain à Dakar.
En athlétisme, Caster Semenya encore privé de compétition.
Le nouveau règlement de l'I2AF sur l'hyperandrogénie a encore été appliqué. Conséquence, la championne sud-africaine ne pourra pas défendre son titre sur 800 mètres aux Mondiaux de Doha, prévu se dérouler du 27 septembre au 6 octobre prochain. La justice suisse a décidé de lever la suspension super provisoire du règlement sur les athlètes hyperandrogènes. La Cour suprême suisse a pris cette décision en attendant de se prononcer sur l'appel de Caster Semenya à propos de la décision du tribunal arbitral du sport de valider le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Ce règlement impose aux athlètes hyperandrogènes de prendre des médicaments pour faire baisser leur taux élevé de testostérone afin de pouvoir prendre part aux épreuves de 1000.
En football, le Sénégalais Idrissa Gana Gueye signe au PSG.
Cette fois, c'est la bonne. Après avoir tenté en vain d'acheter le Sénégalais Idrissa Gana Gueye l'hiver dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature du milieu de terrain d'Everton pour 4 ans. Le désormais ex-joueur des Toffees a signé pour 32 millions d'euros hors bonus selon le journal L'Équipe. Le milieu de terrain parisien a été affaibli par le départ à la retraite de Thiago Motta et le conflit avec Adrien Rabiot, parti à la Juventus Turin. Âgé de 29 ans, Gana Gueye a brillé lors de la récente CAN, y compris offensivement. Après une Coupe du Monde 2018 en Russie où il était cantonné à un rôle défensif.
Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite.
Le technicien français qui a démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc a annoncé son arrivée à la tête de l'équipe d'Arabie Saoudite. La fédération saoudienne a salué l'arrivée, je cite, d'un grand nom capable d'apporter un plus au football saoudien. Hervé Renard, 50 ans, était arrivé au Maroc en 2016 et a démissionné le 21 juillet. À la surprise générale, le Maroc, quart de finaliste lors de la CAN 2017, a été éliminé dès les huitièmes de finale par le Bénin, pourtant réduit à 10 et novice à ce stade de la compétition.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le tête-à-tête de lundi à Bruxelles entre deux anciens ennemis, les ex-présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il s'agissait de leur première rencontre depuis 10 ans. Bédié avait apporté son soutien à Ouattara contre Gbagbo à la présidentielle de 2010. Côté pouvoir, le rassemblement des oufouettistes a qualifié cette rencontre de non-événement. Recueilli par Aïcha Diarra à Boaké, d'autres réactions à cette rencontre.
Tout le monde est dessus maintenant. Ce qu'on nous dit là, c'est pas ça qu'il fait. Voilà, actuellement là, nous on est découragés. On sait même pas où on est. Moi, à un moment donné, moi, je suis devenu gagnant, c'est mieux. Voilà, je suis devenu anglophone, puis j'allais m'asseoir là-bas, puis c'est fini. Et d'abord, là-bas, marcher même le moment. Avec toute souffrance qu'on a traversée ici là, Boaké n'a pas bénéficié de quelque chose.
Et pendant que c'est les grands hommes politiques qui sont là, Bédié, Alassane et Gbagbo. Ces trois personnes là, une fois qu'ils sont unis, je pense que pour cette bonne marche de ce pays là, nous aurons en tout cas beaucoup de choses positives dans cette Côte d'Ivoire là. Imaginez un instant que ces trois personnes là sont assises sur une même table, en train de prendre un pot, comme la façon dont nous sommes assis ici là. Mais regardez un instant, c'est très beau à voir.
La réconciliation que le président Alassane Ouattara est en train de prôner actuellement, pour moi, ce n'est pas véritablement effectif. Il y a eu une crise, il y a eu des actions de tout un chacun. Nous avons constaté beaucoup de choses. Il y a deux qui sont partis à La Haye, Dieu merci, ils sont acquittés. Si Bédié a décidé d'aller saluer son petit frère, c'est de bonnes guerres.
On a vu plusieurs alliances ici. On a vu le FPI et le RDR, on a vu le RDR et le PDCI. Vraiment, il y a eu de nombreuses alliances. Et aujourd'hui, on voit que le PDCI et le FPI, tendance Gbagbo, se sont réunis, sont vus, se sont parlé. On espère que ça va accoucher de quelque chose de bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'important aujourd'hui, c'est le bien-être des Ivoiriens.
Si ça peut nous mener à la réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais moi, à mon avis, Bédié, Gbagbo, Alassane, c'est bon. Ils ont dépassé, c'est bon. Il faut une nouvelle génération pour qu'on soit tranquille. Parce qu'il me dit qu'actuellement, avec tout ce qu'on vit, c'est parti de ces trois personnes-là.
Je pense que ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je pense que ces deux messieurs-là, c'est on dame leur vie dans le passé. Hein. Voyons la vie autrement. On ne peut pas focaliser notre vie sur des politiciens, franchement, qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, qui est venu, qui a fait du n'importe quoi, en parlant de l'ivoirité, qui devrait quand même aller s'asseoir, donner des conseils aux gens, en tant que sage de la nation, qui se permet encore de devenir encore candidat.
C'est une vie de courtoisie. Ça peut nous permettre aussi de ne pas penser mal, même en tant que l'ex-président. On peut toujours lui rendre des visites. Ça, c'est bien, quoi. Selon moi, c'est une bonne chose.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Cela fait 10 ans que le Nigeria est confronté à l'insurrection de Boko Haram. Le conflit a été déclenché lorsque le fondateur du groupe Mohamed Youssouf a été tué lors d'une offensive militaire à Maïdougouri le 30 juillet 2009. 10 ans après, que pensent les Nigérians de cette guerre qui a fait environ 30 000 morts? Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Nous sommes le 30 juillet 2009 à Maïdougouri. Le leader du groupe terroriste Boko Haram et prédicateur islamiste Mohamed Youssouf est tué par la police nigériane, marquant le début d'une insurrection violente. Témoignage des Nigériens dans les rues d'Abuja.
Cela a affecté notre pays en termes de sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Partout où vous partez ou alors que vous voyagez, soit par avion, il y a toujours cette appréhension de l'existence d'une insécurité dans le pays.
Insecurity is still there in the country.
I was living in Maiduguri.
Moi, je vivais à Maiduguri, la capitale de l'état de Borno. C'est Boko Haram qui m'a fait venir à Abuja ici. J'avais 6 boutiques. Quand ils sont venus chez moi, Dieu merci, j'étais absent, mais ils ont brûlé toute la marchandise. J'ai tout perdu. Donc je suis venu ici à Abuja et je ne sais pas quoi faire. Présentement, je suis un simple chauffeur.
Le groupe est à l'origine d'une série d'enlèvements dans la région, notamment le rapt de 276 lycéennes de la ville de Chibok en 2014, la multiplication des attentats suicides sur les marchés de l'état de Borno et même la capitale fédérale Abuja n'a pas été épargnée. Quelques 2 millions de personnes sont chassées de leurs villes et villages dans le nord-est. Oumar Gola, 48 ans, a fui son village natal dans l'état de Borno. Borno. Il vit depuis 10 ans dans le camp de déplacés de Durumi à la périphérie d'Abuja.
Nous ne sommes pas contents de vivre ici dans ce camp, mais nous n'avons pas le choix que d'accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas notre prière de nous retrouver ici. La vie continue malgré que nous nous trouvons dans cette situation. L'expérience de vie de ce camp n'est pas facile. Surtout la vie des enfants et des femmes est un calvaire. Ils sont les plus affectés par la crise.
Si le groupe n'est plus capable de capturer ou de contrôler des villes d'importance, l'armée, elle, ne parvient toujours pas à éradiquer ou empêcher les attentats récurrents, principalement dans le nord-est du pays. Pour le colonel de l'armée de l'air à la retraite, Sadiq Garbachehu, l'armée nigériane a beaucoup de problèmes.
Le premier problème, c'est le problème d'effectifs. On n'a pas assez d'effectifs sur le terrain. Le terrain là de notre est, c'est un terrain très large, avec beaucoup d'obstacles là. Donc, pour chaque 1000 populations, on a besoin de 25 soldats. Mais quand on parle d'effectifs, il faut aussi parler d'équipement. Avec tous les moyens qu'il a besoin pour rester sur place. On n'a pas ça.
Le groupe est aujourd'hui divisé et s'est affilié à l'État islamique, devenant officiellement sa branche en Afrique de l'Ouest. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, plus de 6 mois après son élection, le président congolais Félix Tshisekedi devrait bientôt pouvoir former son gouvernement. Les plateformes FCC de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et Cash de son successeur se sont entendues pour gouverner ensemble. L'équipe du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba devrait compter 65 ministères, dont 42 pour le FCC, majoritaire au Parlement, et 23 pour Cash. Comment se fera cette gouvernance FCC Cash, quels sont les obstacles et défis? Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Cameroun, de nombreux dysfonctionnements affectent le règlement des conflits agro-pastoraux dans le pays. C'est ce que révèle une récente étude menée par des experts en gouvernance foncière. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
D'après l'étude, les personnes pauvres et vulnérables payent le plus lourd tribut des dysfonctionnements dans le règlement des conflits agro-pastoraux au Cameroun. Parmi ces dysfonctionnements, il y a les charges des frais de cession de règlement de litige, dit à Christian Takou, géographe, environnementaliste et co-auteur de l'étude.
If you look at the cost that is involved,
si vous regardez les coûts qu'implique le règlement des conflits, c'est souvent payé par les communautés locales et nous pensons que c'est actuellement très élevé.
Or, la loi dispose que ces dépenses sont supportées par le budget de l'État. La violation de cette disposition empêche les plus pauvres de réclamer leurs droits. Autre problème majeur soulevé par l'étude, la marginalisation des autorités traditionnelles au sein de la commission de règlement des litiges agro-pastoraux. Dr Tani Robinson, chef traditionnel dans la région du Sud-Ouest.
Les bonnes lois existent, mais il y a une mauvaise application. Sur le terrain, notre position a diminué et cela nous fait perdre notre crédibilité. Nous voulons que le gouvernement renforce les communautés locales et leurs leaders pour résoudre les litiges en utilisant la diplomatie traditionnelle.
Des manquements accentués par la méconnaissance du texte de 1978 qui organise le fonctionnement de la commission. Moïse Mimbel Lom, l'un des auteurs de l'étude et coordonnateur d'action pour le développement communautaire.
Avec le document, les gens savent que quand la commission est saisie, elle a 3 jours pour descendre sur les lieux. Ça ne dépend pas de l'agenda du sous-préfet. C'est une obligation textuelle. À partir du document, les gens savent qu'ils ont un droit de recours devant la juridiction administrative dans un délai de 30 jours à compter de la décision de la commission. Mais les gens ne savent pas. Dans les localités, quand une décision sera prise, on croisera les bras et on s'arrêtera.
La Coalition internationale pour l'accès à la terre, ILC, encourage la gouvernance foncière centrée sur les pauvres et les personnes vulnérables. Au Cameroun, cet objectif est poursuivi par une plateforme d'une vingtaine d'institutions. Michel Sonkwe, facilitatrice de la stratégie nationale d'engagement.
On a l'impression que la législation a place. C'est pour certaines personnes. Le seul moyen de sécurisation foncière au Cameroun qui est valable du point de vue du droit moderne en matière foncière, c'est le titre foncier. Mais lorsque on s'arrête pour voir les faits sur le terrain, le constat que l'on fait, c'est que les populations qui vivent en zone rurale n'ont pas les moyens d'accéder au titre foncier.
Faute de titre foncier, le nombre de litiges agro-pastoraux s'est accru au fil du temps. Dans le nord-ouest, en zone anglophone, les experts affirment que 52% des villages sont concernés par ce problème. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
Le programme Yali revient pour une nouvelle édition aux États-Unis. La Young African Leaders Initiative du département d'État américain, ou YALI, vise à forger un réseau actif de jeunes leaders africains et consiste en une formation de 6 semaines dans des universités américaines. Dilly Diko a rencontré l'un d'entre eux à Washington. Espoir Galoukié est un jeune organisateur communautaire en République démocratique du Congo. Nous l'écoutons.
Mon projet, c'est dans les leadership in public management pour rendre la population plus exigeante et rendre les citoyens plus exigeants et rendre aussi les dirigeants plus redevables. Parce que aussi longtemps que les gens pensent que les problèmes du Congo, c'est la guerre, les gens pensent que les problèmes du Congo, c'est le manque d'infrastructures, c'est l'injustice. Pourtant, les problèmes du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Il faut combattre cette mauvaise gouvernance en rendant la population plus exigeante envers elle-même, ça veut dire s'acquitter de ses devoirs, être exigeante envers ceux-là qui ont le pouvoir, n'importe quel pouvoir, et rendre aussi les dirigeants plus redevables envers le peuple.
Comment se sont déroulées ces 5 semaines dans une université américaine et où est-ce que vous étiez?
J'étais à l'université de Virginia Tech avec les 24 fellows venus de 16 pays d'Afrique. On a appris les leaderships et nous avions appris nos forces, qu'on appelle en anglais nos strengths. J'ai redécouvert mes forces en fait. L'une des choses importantes, c'est de se focaliser sur ses forces au lieu de se focaliser sur ses faiblesses. Avec les différentes visites des sites, les différentes visites de l'administration américaine qu'on a eu à faire dans les organisations, dans les entreprises et aussi le networking entre nous Africains et entre les Américains aussi. Ces réseaux-là, c'est une très grande richesse qu'on va essayer de mûrir pour qu'on puisse accroître. Ce qu'on fait au pays, on va l'exporter dans d'autres pays et ce qui se fait mieux dans d'autres pays, on va l'amener dans notre pays parce qu'il n'y a pas de grande richesse que l'information et que les réseaux.
Comment est-ce que vous allez utiliser l'expérience acquise ici pour améliorer votre projet dans votre pays?
Je vais utiliser les outils, je vais utiliser les réseaux et je vais continuer à me focaliser sur mes forces. Je vais me focaliser sur ceux-là qui sont compatibles avec moi et continuer toujours à nous focaliser, toujours à la lutte contre la mauvaise gouvernance. Si on a une bonne gouvernance, le Congo sera les États-Unis d'Afrique.
Et de façon générale, comment s'est passé votre séjour ici?
Ça se passe très bien. J'ai découvert les États-Unis. Quand on est en Afrique, on a l'image des États-Unis, de la télé, de Hollywood. On a découvert l'image des États-Unis. Il y a des personnes qui sont pauvres. On a découvert que les Américains ne sont pas arrogants. Il y a des Américains qui sont tellement accueillants, tellement simples comme des Africains. J'ai découvert aussi que les Américains respectent la loi. Ça, c'est une très grande leçon. Et l'une des leçons, c'est le respect du temps. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est la vie. Et aussi, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui réfléchissent comme moi, qui pensent que les problèmes de l'Afrique sont énormes et la solution, c'est entre nous. Nous ne sommes pas les futurs, mais nous sommes les présents pour les futurs. Ce qu'on fera, c'est pas pour nous, c'est pour l'avenir de notre continent.
Espoir Galoukié, jeune organisateur communautaire à Kinshasa, participe au programme Yali dans la capitale américaine.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.